tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Franchir les frontières, 4 histoires de passage. Au départ de cette série, il y a une utopie. L'envie d'aller et venir, de décider soi-même simplement où l'on va. Prendre un train, traverser une forêt et simplement se retrouver de l'autre côté. Laisser derrière soi la guerre et la peur et aussi sa maison et sa famille. Mais pour les privilégiés, les frontières sont de simples formalités, des lignes imaginaires qui traversent des cols, des mers ou des chemins et qui racontent notre histoire. Des lignes qui nous séparent autant qu'elles nous rapprochent. Pour commencer, les personnages. Des écrivains un peu poètes, des douaniers qui ont de l'humour, d'autres qui en ont moins, des historiens qui démêlent l'histoire des frontières et des bénévoles qui attendent ceux qui sont perdus à l'arrivée. Ensuite, le décor. Le hall de la gare du Nord parmi les voyageurs, parfois sous la mer, dans un tunnel qui relie Londres à Paris, ou dans des trains, un peu nulle part dans ces zones étranges autour des gares et des ports. Aujourd'hui, 3e épisode, Voyageurs de la Manche, comment j'ai tourné autour de l'idée de la frontière franco-britannique, un documentaire de Maïlys Besri réalisé par Assia Khalid. On est entre la France et l'Angleterre, séparés par la mer sur une frontière invisible mais bien réelle.
Monsieur le Président, je crois fermement que ce grand projet que nous avons conclu aujourd'hui sera jugé passionnant. Passionnant parce que c'est une réalisation nouvelle. Passionnant parce que c'est une grande entreprise. Passionnant parce que c'est un ouvrage digne de notre époque et des aspirations des peuples de nos deux pays.
Nous avons commémoré, il y a un mois, le 90e anniversaire de l'entente cordiale, puisqu'elle s'appelle ainsi, et qui est en effet cordiale, enfin presque toujours.
Le peuple français et le peuple britannique, en dépit de leur rivalité séculaire, se complètent bien, mieux sans doute, qu'il n'y paraît à première vue. Certes, nos relations ont connu de violentes secousses au fil des âges, mais ces temps sont révolus.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est fait, un trou de 5 cm sous la Manche et l'Angleterre n'est plus tout à fait une île.
Voyageurs de la Manche, Maïlys Besri, Assia Khalid.
I have sailed across it. I've gone underneath it probably 500 times. I love it. I hate it. I feel very European because I've spent a lot of time on both sides. Half my family is on the French side, half my family is on the British side. I love the wildness of Britain because it's an island, and I hate the isolationism that it gives us too. I think that it gives us a false sense of superiority being an island. I blame the sea.
My name is Chris Cleave. I live in London with my three children.
Je m'appelle Chris Cleave. Je vis à Londres avec mes trois enfants et ma femme qui est parisienne. Ça fait 10 ans qu'on habite à Londres. Je suis romancier. Ça fait 15 ans que je vis de ça. J'écris sur la façon de vivre, sur des questions d'éthique. J'aime beaucoup. J'aime raconter des histoires sur notre société comme elle est, comme elle pourrait être.
dans votre livre « Et les hommes sont venus », il y a une question qui revient, qui est celle du voyage.
I think that the journey is at the heart of all of our human experiences.
Pour moi, le voyage est au cœur de toutes nos expériences humaines. Et je me demande à quel point on devrait sacrifier notre confort de vie pour aider ceux qui ont moins de chance que nous. Ça, c'est la vraie histoire dans Et les hommes sont venus.
It's about the way our lives are so lucky compared to those of refugees.
On a tellement de chance comparé aux réfugiés. Comment est-ce qu'on peut les aider? Et à quel point devrions-nous nous impliquer dans l'aide qu'on leur apporte? Je dis dans le livre que nous sommes tous des réfugiés. Nous sommes tous en train de nous échapper, essayer de nous échapper d'une version de nous-mêmes que nous n'aimons pas.
So refugees are
les réfugiés
living that journey in its purest
vivent ce voyage de manière vraiment pure et effrayante. Ils essayent de fuir le mal pour aller vers la sécurité. Et quand on compare nos vies aux leurs, on se rend compte que nous aussi, on est en plein voyage.
We are refugees from the destruction that we make in our own lives.
On essaye de fuir l'autodestruction qui nous guette pour avoir plus de sécurité psychologique et morale. Et nous vivons tous ce voyage. Et je crois que quand on reconnaît ça, on devient solidaire, justement, nous en Occident, avec ceux qui ont besoin de notre aide, parce qu'on se rend compte que personne n'est vraiment à l'aise pour traverser le chemin de notre vie.
In the canteen, there was a television that was always on. I began to learn more about life in your country. I watched programs called Love Island and Hell's Kitchen and Who Wants to Be a Millionaire, and I worked out how I would kill myself in all of those shows. Drowning, knives, and ask the audience.
À la cantine, une télévision était allumée en permanence. Cela m'a permis d'apprendre plus de choses sur la vie dans votre pays. J'ai regardé des émissions qui s'appelaient L'île de la tentation ou Hell's Kitchen et Qui veut gagner des millions. Et je me demandais comment me tuer dans tous ces programmes. Noyade, couteau et appel au public. Un jour, les employés du centre de rétention nous ont remis à tous un exemplaire d'un livre intitulé « Vivre au Royaume-Uni ». Il explique l'histoire de votre pays et comment s'intégrer. J'ai réfléchi à la façon de me tuer à l'époque de Churchill, rester sous les bombes, de Victoria, me jeter sous les sabots d'un cheval, et d'Henri VIII, épouser Henri VIII. J'ai imaginé comment me tuer sous des gouvernements travaillistes et conservateurs, et je me suis aperçu qu'il était inutile de prévoir un mode de suicide sous les démocrates libéraux. J'ai commencé à comprendre comment fonctionne votre pays. On m'a fait quitter l'infirmerie. Je hurlais encore la nuit, mais plus toutes les nuits. J'ai pris conscience qu'en réalité, je transportais deux chargements. L'un était l'horreur, c'est vrai, mais l'autre était l'espoir. Je me suis rendu compte qu'en me tuant aussi souvent, j'étais revenu à la vie.
Peut-être rappeler cette histoire du roman Et les hommes sont venus, Chris Cleave.
L'histoire dans le livre, c'est qu'il y a une jeune Nigériane de 14 ans. Elle a 14 ans au début du livre, elle arrive à Londres. Elle est réfugiée.
And she is in a relationship of friendship with a woman called Sarah.
Elle a une amie qui s'appelle Sarah, qui vit à Londres.
It turns out that the two women knew each other before.
Il s'avère que les deux se connaissaient avant.
And the reason they know each other is because
Sarah was slightly involved in the à l'histoire qui a fait de Petite Abeille une réfugiée. C'est comme ça que démarre cette histoire, et c'est comment ces deux femmes se rencontrent, se connaissent, et comment elles s'aident à chacune à survivre. Parce qu'il s'avère que la réfugiée n'est finalement pas celle qui est la plus faible, c'est Sarah, celle, la londonienne, elle aussi, elle a besoin d'aide.
Il y a ce terme qu'on retrouve dans votre livre « Et les hommes sont venus ». Vous parlez de la jungle londonienne. C'est comme cette jungle qui apparaît justement à cette réfugiée Petite Abeille. C'est étonnant parce que c'est le terme qu'on retrouve aussi pour les réfugiés de Calais.
It's amazing, isn't it, that the camp in Calais was called the jungle.
C'est incroyable qu'on ait appelé ce camp de réfugiés à Calais la jungle. Pour moi, ce terme, c'est quelque chose que j'utilise vraiment avec des pincettes. C'est la jungle, c'est quelque chose qui est sauvage, qui n'est pas civilisé.
And I think that it works as a real place. It also works as a metaphor for.
Et ça fonctionne comme un endroit réel, mais aussi une métaphore pour la sauvagerie, le danger. Et c'est ce que Petite Abeille découvre à Londres.
It means an untamed place, a place slightly outside.
Une zone de non-droit qui échappe à la loi, qui échappe à la normalité.
And that's the problem with refugees. They don't.
Et c'est ça le problème avec les réfugiés, c'est qu'ils ne sont chez eux nulle part. Ils ne sont pas chez eux dans une ville, dans une autre ville.
In a wild place, extrajudicial.
Ils vivent dans un endroit sauvage, un endroit qui échappe aux lois.
They don't belong anywhere. They're in a wilderness.
Ils ne sont chez eux nulle part. Ils sont dans une espèce de jungle. C'est pour ça que là, justement, cette métaphore, elle fonctionne si bien.
You know that only good swimmers can cross the channel? You know that? And it's 10 hours minimum to cross. You understand? And the water is 10 degrees. You think you are able to swim 10 hours in 10 degrees water? Hein? Tu comprends ce que je dis?
Yes.
So what?
I pay for listening, sir.
Ok, swim. Vas-y, swim.
Si on prend le chemin de la Manche et de la frontière transmanche, il y a un petit bout de territoire avec la voie ferrée fermée et des barbelés qui matérialise cette frontière entre la France et la Grande-Bretagne.
Et c'est ce que nous avons surnommé, quand ça s'est érigé, le mur de la honte.
Nathalie Perret-Marzano, déléguée générale d'Emmaüs International.
Alors évidemment, ce n'est pas un mur de briques, c'est un mur de grillage, comme ceux qu'on peut voir à Ceuta et Melilla. Ils font 5 mètres de haut, qui sont surmontés de fils barbelés. Et ça, vous pouvez mettre tous les murs que vous voulez, vous pouvez mettre tous les dizaines et les centaines de CRS, il n'y a rien qui empêchera quelqu'un qui a fait le choix difficile de quitter sa famille, de quitter sa ville, de quitter son pays, d'aller à la destination qui s'est donnée et d'essayer d'atteindre son objectif de vie. La destination qu'ils ont en tête, c'est ce qui les maintient en vie. C'est grâce à ça qu'ils supportent toutes les horreurs et toutes les difficultés et tous les dangers auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Ils ont beau fermer, les gens continuent de vouloir aller en Angleterre parce que c'est leur objectif, parce que c'est là où ils ont de la famille, parce que c'est là où ils ont des amis, parce que c'est là où ils ont rêvé de reconstruire leur vie.
Par jour de grand vent, on aperçoit au loin le pays que vous espérez tant. Par jour de grand vent, la terre qui est dans tous les esprits prend chair. Elle est là, toute proche. On pourrait presque la toucher. L'Angleterre. Des bateaux vont et viennent, ferry après ferry. du matin au soir. C'est si proche. Tant de gens vont et viennent, entrent, sortent, y retournent. Tant de gens, mais pas vous. Pour vous, d'ouvre le nom d'un supplice qui vous nargue de loin et ne se rapprochera pas.
Chris Cleave, si on parle de cette frontière transmanche, il semble que la perception culturelle qu'on a des réfugiés d'un côté et de l'autre de la Manche soit un peu différente.
J'ai
vécu longtemps à Paris, et ça fait quelque temps que j'habite à Londres, et j'ai remarqué qu'on trouve beaucoup plus de compassion envers les réfugiés en France qu'en Angleterre. Et je crois que ça vient de quelque chose, c'est profondément ancré chez les Français, de l'égalitarisme, quelque chose dans la structure même de ce pays. On pense que les pauvres ne sont pas responsables nécessairement de leur dénuement. Tandis qu'à Londres, on a tendance à croire que les pauvres sont responsables de leur destin et il y a moins de compassion, même si, heureusement qu'il y a des exceptions magnifiques. En ce moment, Londres vit quelque chose de très isolationniste. Ils veulent construire des murs et des barrières au lieu de construire des ponts.
Je viens du Darfour, qui est en guerre. J'ai payé 2700 euros pour monter dans un bateau qui allait en Italie. On a passé plus de 15 jours en mer parce qu'elle était très agitée. Je veux aller en Grande-Bretagne parce qu'au camp de réfugiés, j'apprenais l'anglais. Je ne sais pas parler français et je ne sais pas me débrouiller avec les gens en France. Ici, la situation est devenue très difficile. On vit dans une jungle, comme des animaux. Parfois, quand on va dans le centre-ville, des gens nous jettent des bouteilles. Certaines personnes ne veulent pas de noirs dans leur ville. Ça fait 8 mois que je suis dans cette jungle et chaque jour, j'essaie d'en sortir. J'essaie de gagner de l'argent pour me faire aider par un passeur. En Angleterre, la vie est meilleure. Les gens vous respectent plus. Sied, 23 ans.
La question de la circulation des personnes, elle est différente aussi en fonction de la nationalité des gens qui circulent.
Et c'est pour ça qu'Emmaüs est très impliquée sur ces questions-là, parce qu'en réalité, on est pleinement sur la question centrale de la pauvreté et de l'accroissement des inégalités dans le monde. Moi, je suis française, j'ai un passeport français, j'ai le droit d'aller, je pense, sans visa dans à peu près 140 pays. Je suis sénégalaise, j'ai droit d'aller dans 2 fois moins de pays. Et je vous raconte pas si je suis syrienne ou libyenne en ce moment. Je pense que j'ai à peu près le droit d'aller nulle part, puisque, compris, on est en train de faire tomber toute la Convention de Genève sur le droit d'asile. Donc vraiment, on est dans une situation d'inégalité flagrante par rapport en plus à des gens qui ne partent pas forcément de gaieté de cœur, mais partent parce que la vie les amène à devoir faire ce choix. Donc on est vraiment dans une espèce d'incompréhension totale de la problématique migratoire aujourd'hui qui est devenue quasi criminelle en fait. On parle de milliers de morts quoi aujourd'hui.
Ça fait 6 mois que j'essaie d'entrer au Royaume-Uni. Mais je n'abandonne pas et chaque jour j'essaie de monter sous les camions et de m'accrocher entre les pneus. J'ai déjà réussi 10 fois. Je fais ça la nuit, entre 1 et 3 heures du matin. Le trafic est plus dense et les camions roulent plus lentement, donc on a plus de chances de réussir à se glisser en dessous. Derek.
Il y a eu des morts dans ce tunnel sous la Manche.
Oui, et il y en aura encore.
Des gens qui tentent de traverser à pied, qui tentent
tous
de
les jours, tous les soirs.
Sur ces trains.
Tous les soirs. Vous avez les gens qui sont dans ce qu'on appelle la jungle de Calais attendent la nuit tombée pour tous les soirs tenter un passage en Angleterre, par les moyens qu'ils peuvent. Donc s'ils peuvent encore essayer de grimper dans un camion parce qu'ils l'auront attrapé plus tôt que maintenant, c'est plus possible dans la zone portuaire, ils le feront. S'ils peuvent essayer de monter sur un ferry, ils le feront. S'ils peuvent passer dans le tunnel, ils le feront. On a entendu des histoires absolument insupportables de gens qui sont écrabouillés dans le tunnel. Je pense que c'est le scandale du 21e siècle qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi.
Derrière la porte qui est là-bas, derrière la porte, c'est ce qu'on appelle une zone stérile, d'un point de vue sûreté. Là, on vient d'entrer par le filtre vert, on vient d'entrer sur le terminal transmanche. C'est-à-dire que là, actuellement, avec le badge que je vous ai donné, vous avez passé le contrôle disons qui est réservé au personnel, hein, qui travaille sur le site. Et là, vous vous trouvez dans une zone dite internationale.
À partir du moment où les contrôles se font ici, on est déjà au Royaume-Uni ?
Non, on n'est pas au Royaume-Uni. On est toujours en France, c'est la législation française qui s'applique.
Bonjour. Ah.
Je vous présente Philippe Milan, qui est l'inspecteur régional ici, en charge du service de la brigade Transmanche.
S'il se passe quelque chose dans cette zone, c'est la législation française qui s'applique ?
Absolument.
On est où exactement dans ce terminal ?
C'est pas du tout le même statut qu'un aéroport. Quand vous êtes dans un aéroport, vous êtes sur une frontière tierce. Là, on est sur une frontière intérieure.
Monsieur, bonjour. Speak French ?
Non.
No, English. I speak English, yes.
English. Anything to declare ?
Declare.
Cigarettes or alcohol or...
No.
Are you carrying money more than 10,000 euros ?
Nothing. More than 10 euros?
Yes, more than 10,000.
No.
Okay.
I wish, but no.
Okay, thanks.
Okay,
thank you. En fait, il y a 4 savons. Alors le savon, ça ressort en organique. Sauf que l'explosif, ça ressort en organique aussi. Donc vous avez une masse rectangulaire. Il y a 4 masses rectangulaires. L'agent voit 4 masses. Donc il n'arrive pas à déterminer ce que c'est. 9 fois sur 10, c'est inoffensif. Mais comme je vous l'ai dit, l'explosif, malheureusement, c'est organique.
On peut faire des explosifs avec du savon, non ?
Ah, on peut faire des explosifs avec beaucoup de choses. Donc avec des produits courants. Donc le moindre doute, en gros.
C'est ok. Je vous ai seulement les clés et les téléphones. Voilà. Pour la monnaie, ça ira. Laissez ça dans le bac à côté. Voilà. Vous pouvez passer. Revenez, il y a un autre téléphone là. Si ça marche pas, vous revenez par là. Mettez-vous sur le côté, cherchez la solution. Voilà, donnez-moi ça. Est-ce que vous avez des clés aussi ? Allez-y, passez.
C'est un contrôle de sûreté tout à fait similaire à celui que vous connaissez quand vous prenez un avion. Bon, notre niveau d'exigence n'est pas du même ordre. Sur les contrôles pour l'embarquement sur le train, on vérifie en tout premier lieu que les voyageurs ne transportent pas des engins explosifs qui peuvent mettre en péril l'ouvrage, les voyageurs et les moyens de transport. Pour le voyageur, il sait qu'il passe la frontière, qu'il est contrôlé par la douane et que son bagage est ouvert. Et nous, on utilise les mêmes pouvoirs, l'article 60 du Code des douanes, que celui qu'on utilise sur le territoire national, dans les aéroports, dans les ports, sur la route.
Christian Boucard, qu'est-ce qu'on peut dire de Paris en tant que frontière ?
Paris est bien une frontière, comme d'ailleurs l'ensemble des points sur le territoire, ce qui peut paraître assez paradoxal. Mais sur Paris, en fait, on a déjà un certain nombre de frontières ferroviaires, puisqu'on a 7 gares internationales dans Paris. Et on a également un héliport, qui est l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, qui est une frontière, en fait, Schengen. Donc ça fait quand même plusieurs frontières dans Paris, sans compter, en fait, finalement, toutes les rues de Paris qui peuvent être une frontière juridique. Alors la frontière, c'est vrai que dans Paris, ça peut paraître paradoxal puisqu'on est assez loin des frontières territoriales.
On est dans une ville enclavée.
Voilà, on est dans une ville effectivement qui est plutôt au centre, on va dire, du territoire. Mais malgré tout, c'est une ville où il y a un fort trafic international. Alors c'est pas Roissy évidemment, hein. Roissy là, c'est la première frontière au sens quantitatif. C'est là où arrivent et où partent le plus de marchandises en France et le plus de passagers. Mais Paris est une frontière.
C'est bon.
Mais j'ai pas de téléphone et de clé là.
Allez-y, je vous en prie. Si.
Alors, on est derrière les ordinateurs.
Alors ça, c'est une machine à rayon X. On appelle ça un RX. Nous. Donc la collègue, elle visualise la photo du bagage qui est passé au rayon X. Donc il y a plusieurs couleurs. L'orange, le vert et le bleu. Donc tout ce qui est orange, c'est organique. Donc la nourriture, tout ce qui est d'origine organique. Tout ce qui est inorganique, le métal, la pierre... Ça sort soit bleu, soit vert en fonction de la densité. Donc tout ce qui est armes, ça sort soit en bleu, soit en vert. Quand on a un doute au niveau d'un amoncellement d'objets, le collègue derrière,
il ouvre.
Par exemple, ma collègue, elle a visualisé un tableau. Donc on va faire un contrôle du tableau. Le but, c'est de savoir si c'est une œuvre d'art, si c'est une œuvre d'art qu'elle a le droit de sortir, si c'est un trésor national, un bien culturel. Et donc, on va contrôler le tableau. Voilà. Donc là, tout de suite, on ouvre le tableau. On voit que c'est un tableau qui n'a pas de valeur particulière. Mais ici, on a fait des Picasso, on fait plein d'œuvres d'art. C'est énorme.
Il y a Picasso qui voyageait légalement ou illégalement ?
Il y a un peu de tout, parce qu'il y a le marché de l'art entre Paris et Londres. Donc, il y a Sotheby's, il y a tous les grands marchés de vente entre Paris et Londres. Donc, il y a des œuvres qui circulent.
Allez-y, il y a des choses qui ont... Téléphone, clé. Allez-y avant que ça couine. Hein. Ok. Oui, bah oui.
Vous voulez que je passe
Non, venez sur le côté, monsieur. Écoutez ce que je dis. Vous enlevez les clés, les téléphones.
Bah alors, j'enlève ça.
Gardez la veste.
Bah oui, mais.
Alors, vous avez des poches, non? Vous savez.
Oui, bah tout est là-dedans.
Alors, vous pouvez pas les retirer? Allez-y, monsieur.
Bah si, je peux retirer, mais bon. Le mieux, c'est de passer alors, ça.
Revenez, monsieur.
Sur le côté.
Allez, retenez. Il y a encore quelque chose, c'est de voir votre ceinture.
Ah, puis la ceinture.
Oui, c'est ça, retirez-la. Est-ce que vous avez d'autres choses métalliques? Des clés? Make it sure. English? French?
English. You say?
Yes. Cigarette as well. Ok, go through the gate.
À Saint-Pancras, le Border Force travaille étroitement avec des services spécialisés justement dans le profiling. Par rapport à toutes les bases de données qu'ils manipulent, ils peuvent avoir effectivement des signaux indicateurs, précurseurs, disons, pour contrôler plutôt un tel qu'un tel. Hein. Bon, ils recoupent ça avec leur base de données et donc ils ont des spécialistes de ça.
Tout à l'heure, je ne vous ai pas fait voir, mais il y en avait un qui est très très discret du Foreign Office.
Ils ont une culture du renseignement et de la gestion des data qui est pas la nôtre, hein, qui est beaucoup plus pertinente. Hein. Et on travaille en étroite collaboration avec et on profite de leur savoir-faire.
Téléphone, ça, faut les enlever, vous les posez là.
Oui. Vous êtes français, monsieur?
Bordeaux. Purchased it in Bordeaux.
Ah.
I collect it.
It's okay. Bon, ça va rien, c'est détendu.
Ok. Thank you.
Thank you.
Thank you. Merci.
Le contrôle qui vient d'être opéré, c'était en fonction de l'opacité de l'image du bagage à l'écran.
Hein. C'était quoi? C'était des petits vases en étain,
voilà,
en fait.
Ouais. Donc, comme c'est une forme qui peut éventuellement s'apparenter, notamment ce qu'on peut trouver de temps en temps, c'est des obus. Hein, pour l'anecdote, on trouve très régulièrement des voyageurs qui ont dans leur bagage des explosifs qu'ils ont achetés. Alors, ce sont notamment des obus de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Ils viennent un peu en pèlerinage sur les plages du débarquement ou dans la baie de Somme, etc. Ou même en Belgique, hein, à Ypres, et ainsi de suite, où il y a eu beaucoup de Canadiens, d'Australiens, d'Américains, néo-zélandais qui ont péri. Hein. Leurs petits ou arrière-petits-enfants, ils ne voient pas forcément tellement où est le problème et ils peuvent acheter dans des brocantes. Ils achètent ça et puis ils se disent on va mettre ça chez nous dans une vitrine. Hein, ce sera le souvenir des plages du débarquement, mettons.
Ils ne se rendent pas compte de la dangerosité du problème. L'année dernière, on en a fait 24 obus sur le site.
On fait venir le déminage systématiquement. Et il est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que quand ils ont vu la nature des objets en question, ils ont pris des précautions avec robots, avec des caisses, avec du sable, etc., pour l'embarquer en sécurité. Hein.
L'obus était actif, c'est-à-dire que la personne s'était promenée depuis la Belgique dans le Thalys
avec ses enfants. Hein. Et il comptait retourner en Australie avec.
Oui, hein, tout à fait.
Il comptait prendre le train et reprendre son avion à Heathrow avec. Hein.
On a fait la une il n'y a pas très longtemps, mois de mars, parce qu'on a fait des os humains et un crâne qui étaient issus des catacombes en Amérique. Hein. Il y a des pillages dans les catacombes, il y a des collectionneurs aux États-Unis.
Disons qu'on a été obligé de transposer les contrôles ici, puisqu'on ne va pas faire arrêter le train, c'est une question de logique, on ne va pas faire arrêter le train au moment où il pénètre dans le tunnel, ou bien à mi-tunnel. On ne va pas avoir une guérite douanière, une guérite de la PAF, et faire descendre tout le monde du train à mi-chemin du tunnel. Donc, compte tenu que le train il va d'une seule traite jusque sur le territoire britannique, on a déterminé, conjointement avec les Anglais dans le cadre du traité de Sangatte, on a déterminé que les contrôles ils seraient opérés au moment de l'embarquement dans le train.
La frontière ancienne, elle est quelque part au milieu de la mer ?
Voilà, c'est au milieu de la Manche.
On est dans le train parce qu'on va rater le train.
Bon
merci
voyage,
beaucoup.
Au revoir.
Si on imagine, Chris Cleave, votre écriture, votre travail d'écrivain, comme celui d'un voyage dans l'Eurostar, dans le train, qui irait d'un côté du tunnel à l'autre, ou qui serait allé d'un côté du tunnel à l'autre, est-ce que vous envisagez justement l'écriture comme un processus où vous avez écrit d'ici sur ailleurs, puis ensuite d'ailleurs sur ici ?
J'ai toujours écrit du point de vue de l'extérieur et non pas d'où je viens. Chaque fois que j'ai écrit cette histoire, de raconter ce que c'est d'arriver quelque part avec un regard nouveau et de voir un pays comme un étranger, Je crois que quand on parle du voyage de l'écrivain, dès qu'on commence à se sentir un peu à l'aise dans une société, dès qu'on commence à se dire qu'on est chez soi, bah c'est là qu'il faut bouger, il faut déménager, il faut partir, il faut continuer de bouger. Il faut toujours rester à l'extérieur, il faut toujours rester étranger si on veut vraiment comprendre comment voir une société.
I think the heart of my writing is London.
Pour moi, le cœur de mon écriture, c'est Londres. Mais quand j'écris sur Londres, j'écris sur une ville universelle. J'écris sur une ville que nous sommes en train de créer, en direct. Quelque part, où une scène où notre moralité, où nos problèmes moraux se jouent. C'est une ville pleine d'espoir.
Because the whole world is there.
L'espoir pour le monde entier, parce que c'est une ville multiculturelle.
There are 300 languages spoken in London.
On parle 300 langues à Londres.
Is that you have to work
et la seule règle, c'est qu'il faut travailler, il faut gagner sa vie, sinon la ville vous broie et vous recrache. C'est vraiment un endroit sauvage, c'est effectivement une jungle. Et je crois que c'est là où on s'approche vraiment du cœur de mon écriture.
Renaud Morieux, historien, Université de Cambridge. L'origine du mot, l'étymologie, c'est frons frontis, c'est vraiment ce qui fait face, en latin, ce à quoi on fait face, et puis le terme à l'origine est vraiment militaire. Si on se limite à ça, on va considérer que toute frontière est une barrière. Or, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement utile, c'est de lire la manière dont les anthropologues, par exemple, conçoivent la frontière, qui est beaucoup plus comme une zone, plus que comme une ligne, comme une limite, c'est une zone à géométrie variable, une zone de négociation, une zone d'ambivalence, d'épaisseur variable. Les géographes aussi définissent la frontière de différentes manières, ça peut être effectivement une limite, mais aussi une interface. Et là aussi, il y a un vrai décalage qui me semble très intéressant entre la manière dont la frontière est tracée ou non sur une carte et la manière dont elle est ressentie socialement par différents groupes, ce qui m'intéresse énormément, ce décalage entre la frontière théorique, symbolique, littéraire, imaginaire, imaginé, et puis la frontière réelle, qui souvent n'existe pas du tout, en fait.
C'était un des critères, Renaud Morieux, historique, que d'être à portée de vue, que de pouvoir apercevoir la terre d'en face, c'était un critère de la frontière, justement.
Ça a été un critère qui a été invoqué par les juristes pour proposer une délimitation, notamment de la France et de l'Angleterre. À l'époque, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait une manière de délimiter la frontière qui reposait, qui était fondée sur l'idée de les eaux territoriales vont aussi loin que peut s'étendre le regard. C'est-à-dire ce que l'on voit, on estime que par beau temps, on peut apercevoir jusqu'à 14 000 au large, 14 000 marins. Et donc, ça représente 14 000 marins, c'est presque la moitié de la distance entre Douvres et Calais. Et par très très beau temps, on peut normalement apercevoir, depuis le Cap Griné, près de Boulogne, on peut apercevoir les côtes anglaises. Donc c'était un critère, une frontière sensorielle ou sensible. Il y a un autre critère qui existait dans les ports, dans certains ports, c'était une frontière auditive. On considérait que les limites de la juridiction d'un port, c'était le son d'une cloche qu'on pouvait entendre depuis le large. Une cloche d'une église qu'on pouvait entendre depuis le large.
My lords. We will now proceed with our plans for an invasion of France. We will start by the capture of the strategic town of Boulogne. Your Grace, I shall appoint you commander of our armies. If you have the will and the stomach for the fight.
Majesty, I can only thank God for the chance to win honor and glory in the field. What man would not prefer to die with a sword in his hand and a cry in his throat, rather than a bed in England?
Aye. My lords, I have vowed to bring King Francis under submission, and I will fulfill this promise. I have been all my life a prince of virtue and honor, as you can all attest, and I have never contravened my word. And to all to begin now.
Est-ce qu'on peut dire que la Manche, c'est aussi une frontière historique, Renaud Morieux ?
Absolument, c'est une frontière qui s'est constituée sur la longue durée, entre la France et l'Angleterre, je dirais au moins depuis le Moyen-Âge, à partir du moment où les deux États se sont construits au plan politique, économique, militaire, culturel. Et il y a plusieurs moments importants dans cette longue histoire. Il y a la phase des Plantagenets, l'Empire Plantagenet, c'est-à-dire que la Manche était en quelque sorte une rivière intérieure au sein des possessions anglaises et françaises, c'est-à-dire que l'Angleterre possédait à l'époque le duché de Normandie, enfin, le roi d'Angleterre était aussi duc de Normandie, et donc la Normandie, le Calaisis, les îles anglo-normandes, la Guyenne, l'Aquitaine, tout ça, c'était des territoires anglais. Et donc à cette époque-là, c'était pas une frontière. C'était vraiment, comme je le disais, un cours d'eau anglais. Et puis, à partir du XVIe siècle, lorsque l'Angleterre perd ses dernières possessions, perd le Calaisis, et puis ensuite, à partir de Louis XIV jusqu'à Napoléon, là, véritablement, la Manche devient un enjeu d'appropriation entre la France et l'Angleterre.
Section 1, fire!
Il n'y a que 32 km qui séparent les deux côtes.
C'est vrai que c'est extrêmement resserré, la partie du détroit. Et ça, c'est fondamental à plein de niveaux. Ça veut dire d'abord qu'elle est extrêmement aisée à franchir, contrairement à ce que toute une propagande, notamment côté anglais, en particulier aujourd'hui avec le débat sur la sortie de l'Angleterre, éventuellement de l'Europe, cette idée que l'Angleterre est séparée par une frontière naturelle de la France, ça n'a pas de sens.
Renaud Morieux, la Manche, elle a quand même évité un certain nombre d'invasions. Elle a été une vraie protection, une vraie barrière pour le Royaume-Uni.
Oui. Alors là, je suis un peu réticent sur le terme « la Manche à éviter » parce que justement, c'est ça la tendance de la propagande, notamment politique, c'est de donner à la mer une sorte d'autonomie d'action, une sorte d'intelligence propre presque, alors que la Manche en soi n'empêche rien.
Non, mais c'est un mythe, c'est ça, c'est le mythe.
C'est surtout que ce sont les hommes qui décident d'en faire ou non une séparation ou un lien. Je pense que la Manche, à différents moments, effectivement, a pu jouer ce rôle de barrière et à d'autres moments, ce rôle de lien, et parfois au même moment, en fonction de ce qu'on regarde.
Que la frontière géographique et politique se trouve en plein milieu de la Manche.
Et je dois avouer que c'était une découverte aussi pour moi, en tant que spécialiste du XVIIIe siècle, où il n'y avait pas de traité qui déterminait où passe la frontière, parce que les États n'étaient pas d'accord. C'est lié finalement au traité de Paris, qui dessine une ligne au milieu même, si je retrouve le document, et on voit sur cette carte une ligne qui passe exactement au milieu. C'est le principe qu'on appelle du Talweg, c'est-à-dire la ligne, si la Manche était une rivière, c'est la ligne qui se situe au fin fond, au fond de la vallée.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mot, justement, de Manche? Parce que le mot de Manche, il est apparu, mais d'abord dans les deux langues, mais pas au même moment.
Effectivement, le terme qui va s'imposer en anglais, celui de English Channel, c'est seulement au milieu du XVIIIe siècle qu'il s'impose. Mais avant ça, enfin jusqu'encore, même au XIXe siècle, on parlait de British Channel. Et côté français, on pouvait avoir, par exemple, sous Louis XIV, à un moment où la France prétendait, elle aussi, avoir la souveraineté sur la mer, comme l'Angleterre, le terme était la Manche de France. Et il y a une histoire assez complexe, mais intéressante, qui fait qu'à partir du XVIIIe siècle, le complément du nom de France disparaît, on ne parle plus que de la Manche en français. Ça veut dire que, en gros, dans les conceptions françaises, la mer n'est plus française. La frontière française s'arrête là où commence la mer. Côté anglais, c'est pas du tout le cas. Côté anglais, la mer fait partie du domaine, pour utiliser le terme juridique, ou du territoire de la couronne britannique. Et donc, la Manche est anglaise ou britannique. lorsqu'un bateau britannique croise un bateau français ou hollandais, il exige que ce bateau abaisse son pavillon en priorité, par une sorte de signe de déférence, parce qu'on est sur le territoire britannique. France and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, agreement relating to the delimitation of the territorial sea in the Straits of Dover, signed at Paris on the 2nd of November 1988. France et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, accord relatif à la délimitation de la mer territoriale dans le Pas-de-Calais, signé à Paris le 2 novembre 1988.
Calais et Douvres sont désormais reliés par cette voie souterraine et sous-marine. Bref instant d'émotion lorsque, par le trou, Philippe Cosette a passé son torse du côté anglais sans présenter son passeport avant d'inviter son collègue Roger Graham Fagg à faire de même. Un vieux rêve est donc enfin réalisé. Notre envoyé spécial, Jacques-Yves Tapon de Fréquence Nord, a assisté en privilégié, Jacques-Yves, à ce moment très historique.
Oui, en privilégié, puisque c'est du fond de la galerie, à 16 km 600 de la côte française et à 100 mètres sous le niveau de la mer. Eh bien, c'est de là que nous avons pu assister à cette poignée de main entre le Britannique Graham Fagg et son homologue français Philippe Cosette, les deux hommes à qui on avait donné un marteau-piqueur pour percer les 20 derniers centimètres de craie qui séparait encore la France de la Grande-Bretagne. Les deux drapeaux que les deux hommes venaient de s'échanger se sont mis brutalement à flotter.
Géographiques, politiques et culturelles sont matérialisées dans cette prouesse technologique qui est le tunnel.
Effectivement, et c'est d'ailleurs la grande différence entre la fin du 19, enfin le premier effort véritablement de construire le tunnel dans les années 1870 et puis 100 ans plus tard, le tunnel qui véritablement d'abord est, on se met d'accord pour le construire et ensuite est creusé de part et d'autre, ça incarne tout ce qui a pu changer à la fois dans l'histoire européenne, dans l'histoire des relations franco-anglaises, dans l'histoire des conceptions du commerce et du libre-échange, et puis dans l'histoire des capacités techniques des scientifiques à pouvoir faire ce genre d'exploit qu'il était moins au moment où le tunnel sous la Manche a été creusé. Après tout, on avait déjà eu le canal de Suez, on avait déjà eu énormément d'exploits techniques.
STTS 19. Pourriez-vous me mettre l'éclairage en tunnel de service au niveau du point milieu, s'il vous plaît ?
Là, les rosebif.
Vous êtes un Français exilé à Londres. Qu'est-ce que vous diriez de ce passage d'un pays à l'autre et vous, ce passage qui s'est fait par le tunnel, j'imagine.
Oui.
Est-ce que ça a été un voyage culturel, social ?
Oui, c'est un voyage qui continue sans cesse. Je l'ai fait à très nombreuses reprises, ce voyage aller-retour. Et aujourd'hui encore, là, quand je réponds à vos questions en français, il y a une deuxième voix maintenant dans ma tête qui me suggère des réponses en anglais. Donc je suis en permanence en train de négocier cette frontière.
Linguistique,
oui. J'ai passé 2 ans à Londres en tant qu'étudiant, il y a déjà très longtemps de ça. Et à l'époque, comme j'étais là-bas pour un an ou deux, clairement, j'étais à l'étranger. Aujourd'hui, ce qui est l'étranger pour moi, c'est plus très clair. Moi-même, je suis toujours l'étranger, je resterai toujours l'étranger, mais il y a aussi ce sentiment que quand je rentre à Paris, je suis en train de, à nouveau, de, ça fait 5 ans que je suis en Angleterre, Paris est en train de redevenir une ville étrangère et donc intéressante pour moi. Cette zone d'entre-deux, je vis la frontière au quotidien, oui. Je pense que c'est quelque chose, je terminerai pas ce voyage. Je veux dire, je mourrai en étant encore en train de faire ce voyage.
La notion de frontière s'est déportée à l'étranger, c'est-à-dire que la frontière française, elle peut très bien être aux États-Unis. Vous avez par exemple, dans le cadre des normes de sécurité qui ont été dictées au niveau international, un bateau français qui part aux États-Unis va être contrôlé au point de départ. Donc finalement, la frontière américaine, elle peut être un petit peu en France, et inversement, frontière française peut être aux États-Unis. Et donc on va vraiment vers maintenant des contrôles qui sont faits les uns pour les autres, un peu comme ce qu'on évoquait pour l'Eurostar entre les Français et les Britanniques. Ben, ça se fait aussi maintenant entre différents pays.
Donc paradoxalement, la notion de frontière, elle peut être nomade.
Elle est tout à fait nomade. La notion de frontière, c'est quelque chose, même si juridiquement elle est quand même définie dans des textes, que ce soit le code des douanes par exemple français, le code des douanes communautaire. Tout ça est après finalement combattu par d'autres dispositions qui viennent donner des définitions qui se juxtaposent en fait. Et donc on a la frontière nomade, c'est exactement ça dans l'univers contemporain.
Donc on voit bien que cette notion de frontière, elle n'est pas simplement liée à une zone géographique, puisque par exemple l'Europe a fait descendre ses frontières jusque bien au sud de son propre espace économique.
Est-ce que pour les migrants, quel que soit leur pays d'origine, est-ce que la question de la frontière, elle a évolué ? Est-ce que c'est un paradigme qui a énormément évolué ces dernières années ?
En fait, je pense que quand on est dans la peau d'un migrant, on imagine que ces frontières sont franchissables, quoi. Et que donc, aujourd'hui, où on est dans un monde totalement globalisé, où il y a une totale liberté de circulation des marchandises, où on est dans des mondes, y compris un peu virtuels, pour partie de notre existence, vraiment, ça devient totalement inconcevable pour cette nouvelle génération de migrants d'imaginer d'être bloqué à une frontière. C'est-à-dire que c'est un concept qui tombe en désuétude, en réalité.
Sauf que c'est pas ce qui se passe.
Absolument, parce que malheureusement, il y a une partie des responsables politiques, heureusement pas tous, mais quand même une grande partie, et en particulier en Europe, hélas, sont un peu en retard par rapport à l'histoire, vous voyez.
You look tired. You know you must be in good health if you want to play with Manchester.
They told me you're troubled because of me. I'm sorry.
Don't worry. So you're a swimmer now?
I didn't lose your swimming suit. I'll give you back.
Voyageurs de la Manche, avec Christian Boucard, Jean-Jacques Ménard, Philippe Milan et les agents et contrôleurs des douanes du terminal Transmanche de la Gare du Nord. Avec l'écrivain Chris Clive, Nathalie Perret-Marzano d'Emmaüs International et l'historien Renaud Morieux. Traduction Philippe Aronson. Lecture Christelle Sevcou. Archivina Gwen Michel. Prise de son Alexandre Abergel et Jean-Michel Bernot. Mixage Manuel Couturier. Attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Un documentaire produit par Maïlis Besri et réalisé par Assia Khalid pour Sur les Docks.
Voilà, on a refait surface du côté français. LSD, la série documentaire, c'est tout neuf, mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est mis sur les rails par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez replonger, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour les vacances ou nous réécouter dans le tunnel sous la Manche, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, dernier épisode, des frontières dans la tête. Comment j'ai exploré le labyrinthe des frontières entre Belgique et Pays-Bas.